Bonjour, au micro Idrissa Seloudia, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. En République centrafricaine, le plus puissant groupe armé de ce pays en guerre civile depuis près de 8 ans s'est engagé à quitter la coalition rebelle qui cherche à renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra. Cet engagement a été pris dans un communiqué du général Ali Darassa Mahamat. L'Unité pour la paix en Centrafrique, l'UPC, est un groupe principalement actif dans l'Est, où ses membres contrôlent de nombreux gisements miniers. Fuite du juge béninois Essoué Batamoussi, ce magistrat de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, affirme avoir subi des pressions des autorités qui dénoncent de leur côté une manipulation politique à quelques jours de l'élection présidentielle. « Le juge que je suis n'est pas indépendant », a-t-il affirmé lundi matin dans un entretien diffusé par RFI. « Toutes les décisions que nous avons été amenés à prendre l'ont été sur pression, y compris celle qui a vu le placement de Dame Rekia Madougou en détention », a déclaré le juge en charge du dossier de cette opposante, incarcérée début mars et accusée d'avoir planifié des exécutions en série de personnalités politiques. L'Afrique aura besoin de 12 milliards de dollars pour s'approvisionner et distribuer les doses de vaccins nécessaires à l'interruption de la circulation du nouveau coronavirus, selon un rapport de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ce document plaide notamment pour une prolongation du moratoire accordé par les pays du G20 sur le remboursement du service de la dette des pays africains et souligne les besoins de ces derniers en termes de liquidité. Les États-Unis veulent faire beaucoup plus dans leur livraison de vaccins anti-Covid aux pays étrangers et ne demanderont pas de faveur en échange, a affirmé lundi le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. L'objectif du gouvernement de Joe Biden d'offrir un vaccin à 90% de la population des États-Unis sera bientôt atteint et Washington envisage de livrer un probable surplus de vaccins à d'autres pays plus en retard dans leur propre campagne, a-t-il assuré. Seules les personnes vaccinées contre le COVID-19 seront autorisées à effectuer la Umra, le petit pèlerinage à la Mecque à partir du début du mois de jeûne musulman du Ramadan, qui commence à la mi-avril cette année, ont annoncé hier les autorités saoudiennes. Le président russe Vladimir Poutine, 68 ans, a signé lundi la loi lui permettant de se présenter pour 2 nouveaux mandats présidentiels, ouvrant la voie à son maintien au Kremlin jusqu'en 2036. Ici aux États-Unis, le chef des forces de l'ordre de Minneapolis a accablé lundi son ancien agent Derek Chauvin en déclarant devant les jurés que ce policier blanc avait violé les règles et les valeurs de la police lors de l'interpellation de George Floyd. L'avocat de Derek Chauvin soutient que son client n'a pas causé la mort de Floyd et que l'Africain-Américain est mort d'une overdose. Les États-Unis s'attendent à ce que soient difficiles les discussions indirectes devant débuter mardi avec l'Iran sur un retour des deux pays dans le cadre de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, ajoutant ne pas s'attendre à des avancées dans l'immédiat. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dont le procès pour corruption a repris lundi, a reçu le plus de recommandations de la part de députés en vue de la formation d'un nouveau gouvernement, mais il n'est pas pour autant assuré d'être reconduit à son poste. Et selon le ministère palestinien de la Santé et l'agence Wafa, un Palestinien a été tué mardi par des balles israéliennes en Cisjordanie occupée, alors qu'il se trouvait en voiture au nord de Jérusalem avec sa femme, qui a été blessée par balle dans le dos. La Corée du Nord ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo cet été en raison des risques d'infection au coronavirus, une annonce faite mardi qui achève les espoirs sud-coréens de mettre à profit les JO pour relancer les pourparlers avec Pyongyang. La suite de nos informations, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a insisté hier sur la nécessité d'un apaisement des tensions entre le Soudan et l'Éthiopie, alors que les craintes d'un débordement du conflit sanglant du Tigré grandissent. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Lors d'un appel téléphonique avec le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, Anthony Blinken a évoqué, je cite, « la nécessité de désamorcer les tensions entre le Soudan et l'Éthiopie au sujet de la zone frontalière d'Al-Fashaka ». Il a salué les engagements récents d'entamer un dialogue pour résoudre le problème. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price. La zone fertile revendiquée par les deux pays a connu une augmentation de petits combats entre armées rivales. Le Soudan y envoie des troupes, ce que l'Éthiopie qualifie d'invasion. Ces terres agricoles bordent la région éthiopienne du Tigré, où Addis Abeba a lancé une offensive contre les dirigeants locaux en novembre, envoyant 60 000 réfugiés éthiopiens au Soudan. Blinken a affirmé que la campagne du Tigré a donné lieu à un nettoyage ethnique. Le secrétaire d'État américain a salué la signature par le Soudan d'un accord avec la faction rebelle, le Mouvement de libération du peuple soudanais du Nord.
Plus de 1800 détenus se sont échappés lundi d'une prison de l'État d'Imo dans le sud-est du Nigeria après une attaque perpétrée par des hommes armés. C'est ce qu'ont déclaré les services pénitentiaires nigérians. Abdourahman Dia.
Selon un communiqué de Francis Enobore, le porte-parole de l'administration pénitentiaire, l'attaque a eu lieu vers 2h15 du matin. 1844 détenus ont été libérés de force, selon lui. Des témoins ont raconté avoir vu un nombre important d'hommes armés à bord de pick-up. Ils ont aussitôt attaqué le personnel de la prison avant de faire exploser la porte principale, explique le communiqué. De son côté, le chargé de communication des prisons de l'État d'Imo a confirmé l'attaque et affirmé que la situation est sous contrôle, invitant les habitants à continuer à vaquer à leurs affaires. L'État voisin d'Abia a mis en place un couvre-feu de 22h à 6h du matin suite à cette attaque, la plus importante contre une prison dans l'histoire récente du Nigeria. Le président Muhammadu Buhari a condamné cette attaque, qualifiant ses auteurs de terroristes et d'anarchistes, sans toutefois nommer l'AIPOB, le groupe indépendantiste du Biafra, où se trouve l'État d'Imo. Le porte-parole du groupe, Emma Powerful, a réfuté tout lien avec cette attaque, qualifiant toute information les accusant de mensongères et fallacieuses.
En Jordanie, le roi Abdallah II a pris l'initiative d'engager une médiation avec son demi-frère, le prince Hamza. Ce dernier a promis de rester fidèle au roi après avoir été accusé au cours du week-end de faire partie d'un complot contre son pays. Les précisions de Mohamed Humfa.
Je resterai fidèle à l'héritage de mes ancêtres, à Sa Majesté le roi ainsi qu'à son prince héritier, et je me mettrai à leur disposition pour les aider à les soutenir, a écrit le prince Hamza dans une lettre signée devant les membres de la famille royale et publiée lundi soir. Peu avant, le palais avait annoncé que le souverain avait pris l'initiative d'une médiation avec son demi-frère pour tenter de régler une crise au sein de la famille qui règne sur la Jordanie depuis près d'un siècle. Une crise qui a éclaté samedi au grand jour au sein de la famille royale. Le prince Hamza a affirmé être en résidence surveillée, accusé d'avoir collaboré avec une puissance étrangère non identifiée pour tenter de déstabiliser le royaume, ce qu'il a démenti, accusant en retour le pouvoir de corruption et d'incompétence. Le prince Hamza est le fils aîné de feu le roi Hussein, décédé en 1999, et de son épouse américaine, la reine Nour. Conformément aux souhaits de son père, Hamza avait été nommé prince héritier lorsque son demi-frère Abdallah était devenu roi. Mais en 2004, Abdallah l'avait dépouillé du titre et l'avait donné à son propre fils aîné afin de consolider son pouvoir.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Gabon, le secteur du tourisme, dont l'hôtellerie et la restauration, a été durement impacté par la pandémie de Covid-19 en 2020. Selon la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, Le chiffre d'affaires consolidé du secteur a chuté de plus de 50%, passant de 17 milliards de francs CFA en 2019 à 8 milliards l'an dernier. La masse salariale et les effectifs ont diminué respectivement de 29 et 14% et le nombre de clients a chuté de 38%. La femme d'affaires Isabel dos Santos, fille de l'ex-président angolais, a transmis à la Haute Cour de justice de Londres des documents mettant en doute les révélations des Luanda Leaks. L'agence israélienne de renseignement privé Black Cube aurait des enregistrements de certains hauts responsables angolais qui pourraient prouver une éventuelle machination visant à s'emparer illégalement des actifs de la jeune milliardaire. Au Maroc, le sommet de l'africanité débuté hier se poursuit jusqu'à mercredi à Casablanca. Cette seconde édition sous le thème Made in Africa, parole aux femmes d'Afrique, a pour objectif de fédérer le leadership des femmes et des jeunes en Afrique en les accompagnant dans le financement de leurs projets. La fondation Trophée de l'africanité a récompensé une centaine de personnalités dans le monde, dont plusieurs chefs d'État africains.
Merci Nathalie, et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous, Ligue des Champions ce soir en Europe, le Real Madrid retrouve Liverpool en quart de finale aller. Dans une réédition de l'affiche de la finale 2018, cette affiche entre deux clubs qui additionnent 19 sacres européens, 13 pour le Real, 6 pour les Anglais, reste un classique, même si cette année, ils apparaissent assez peu dominants dans leurs championnats respectifs. Le Real a redressé la barre, restant sur une série de 11 matchs sans défaite. Même chose à Liverpool qui, après une entame catastrophique de l'année 2021, reste sur 3 succès de rang. Dans le second cas, Manchester City se mesure au Borussia Dortmund. L'enjeu sera de taille aussi pour Pep Guardiola et City franchir face à Dortmund. Le stade des quarts de finale en Ligue des Champions, un cap indépassable depuis l'arrivée en Angleterre de l'entraîneur catalan. Des nouvelles de cette affaire de racisme dans la Liga en Espagne après les allégations d'insultes racistes envers Mukhtar Diakabi et l'interruption de la rencontre de Liga dimanche entre Cadix et Valence. L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a qualifié ces incidents de graves. Il faut vraiment avoir zéro tolérance sur ça, a martelé Zizou. Hier, à l'entraînement, les joueurs et membres du staff de Valence se sont rassemblés derrière le défenseur français, Mukhtar Diakabi, main droite, droit devant, paume écartée pour exprimer leur opposition au racisme. La Liga condamne le racisme sous toutes ses formes, a pour sa part déclaré la Liga, rappelant qu'elle considère avec sérieux toute accusation de racisme. Dimanche, les joueurs de Valence ont brièvement quitté la pelouse. Lors de leur match à Cadix, le club valencien affirmant que son défenseur français Mukhtar Diakabi a été la cible d'insultes racistes par un adversaire, Juan Kala. Le club de Cadix a annoncé que son joueur incriminé va donner une conférence de presse ce mardi. Ici, en NBA, le meneur Drew Holiday a prolongé son contrat pour plusieurs années avec les Milwaukee Bucks. C'est ce qu'a annoncé la franchise basée dans le Wisconsin après que plusieurs médias américains ont fait état d'un accord pour un contrat de 4 ans. Transféré en novembre 2020 aux Bucks en provenance des New Orleans Pelicans, dans le cadre d'un échange, le joueur de 30 ans, qui peut aussi évoluer au poste d'arrière, affiche des statistiques satisfaisantes lors des 38 rencontres disputées avec sa nouvelle équipe, 17 points, 5,4 passes décisives et 4,6 rebonds par match en moyenne. Son nouveau contrat pourrait lui permettre de recevoir 40 millions de dollars par an sur les 4 prochaines saisons, selon la presse américaine.
Merci Yafou.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, c'est ce matin que la Cour constitutionnelle ouvre son audience publique à la suite des recours en annulation déposé pour contester l'élection présidentielle du 21 mars dernier. Parmi les personnes qui ont saisi la Cour, le candidat Mathias Zon, qui a officiellement obtenu 1,90%. Mais le parti de Guy Brice Parfait-Colella, candidat décédé au lendemain du vote, n'a pas déposé de recours. Reportage de notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
Les trois dossiers en examen ce matin à la Cour constitutionnelle sont des recours déposés par les candidats Mathias Nzon, Jean-Jacques Serge Yombi Opango en sa qualité d'allié de Guy Brice Parfait-Colella et par le citoyen Christian Mozoma. Contrairement aux deux derniers, Mathias Nzon n'a pas pris d'avocat. Il a préféré être seul face au juge constitutionnel. Dans les rues de Brazzaville, la population exprime diversement ses attentes de cette audience de la Cour constitutionnelle.
Un candidat a été sévèrement empêché. Il s'agit bien du président Parfait-Colella. En rapport de cela, il s'agit simplement que la Cour constitutionnelle accepte d'appliquer les articles 70 de la Constitution et 53 de la loi électorale.
Le candidat invalide sollicite la Cour constitutionnelle qui, elle, dépêche auprès de ces derniers un médecin assermenté pour constater son invalidité ou son incapacité. Tel n'est pas le cas, donc je pense qu'il n'y aura rien à attendre.
Les autres candidats n'ont pas eu de représentants dans les bureaux de vote, donc je ne vois pas qu'ils aient des preuves véritablement tangibles pour convaincre la Cour constitutionnelle. Et cette Cour, nous le savons, elle n'est pas libre.
La société civile, toujours à la réserve, appelle à l'interprétation stricte du droit. Joe Washington Ebina en est l'un des activistes.
La République a des lois et nous attendons, avant d'avoir toute réaction, de voir quelle lecture la Cour constitutionnelle fera.
L'UDH Yuki, le parti de Parfait-Colella, n'a pas déposé de recours. Cependant, il plaide pour l'annulation de ce scrutin à cause de nombreuses irrégularités et non pour le décès de son chef. Lucrèce Nguédi, porte-parole du parti.
Le bureau politique de l'Union des démocrates humanistes Yuki invite ainsi la Cour constitutionnelle à dire le droit et donc à prononcer l'annulation pure et simple des résultats provisoires de l'élection présidentielle, scrutin des 17 et 21 mars 2001.
Malgré sa sérénité, le camp Sassou Nguesso s'est quand même attaché des services d'un avocat, le bâtonnier Emmanuel Oko. Ici également, on souhaite que le juge reste dans le droit, tel que le répète Presse Bahamboula, l'un des porte-parole du candidat.
Tout argument juridique motivant l'annulation du scrutin présidentiel des 17 et le 21 mars 2021 tombe. Et puis, en ce qui nous concerne, bien évidemment, nous sommes sereins et croyons en l'impartialité des jurés de la Cour constitutionnelle à dire le droit et rien que le droit sur la base des éléments probants pouvant compromettre ou non les résultats publiés par le ministre de l'Intérieur. Aussi, nous déplorons la contestation systématique qui est devenue l'apanage des candidats malheureux.
Depuis l'élection présidentielle de mars 2002, le juge constitutionnel suit traditionnellement la voix du ministre de l'Intérieur qui proclame les résultats provisoires. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, grève générale à Beni, Butembo et Kasindi pour protester contre les massacres à répétition dans le Nord Kivu. Les organisateurs, les mouvements citoyens Veranda Muchanga et Lucha, lutte pour le changement, ont donné 10 jours à la MONUSCO, la mission des Nations Unies, pour quitter le territoire. Eddie Isango a joint un membre de la Lucha dans le Nord Kivu, Ghislain Mourema.
Nous avons lancé une opération que nous appelons 10 jours sans activité, et spécifiquement dans la ville de Beni à Butembo, parce que nous croyons qu'il faut que les autorités puissent en tout cas se focaliser sur la question de Beni. C'est en fait une action qui symbolise notre indignation en tant que peuple. Nous avons été tués plusieurs fois et nous voulons en tout cas qu'il y ait des solutions le plus urgentement possible. Le but aussi, c'est de dire à l'autorité que nous n'allons plus payer des taxes en tant que population, parce que nous ne pouvons pas continuer à payer des taxes alors que nous sommes en train d'être tués chaque jour. Mais nous exigeons aussi le départ de la MONUSCO, parce que la MONUSCO est au Congo depuis plusieurs années, et à Beni, depuis que le massacre a commencé, et elle n'agit pas. Et là, elle est en train d'observer au-dessus des gens à côté des bureaux de la MONUSCO, et des cas de la MONUSCO et il n'y a pas de réaction. Et pour nous, c'est inacceptable. Donc, la MONUSCO doit quitter à Beni parce que nous pensons que les Congolais doivent se concentrer sur leurs propres problèmes.
Vous donnez 10 jours à la MONUSCO pour qu'elle parte de Beni ou de Butembo. Comment le départ de la MONUSCO du Nord Kivu peut-elle apporter la paix? Pensez-vous que le départ de la MONUSCO va amener la paix?
Quand on donne à quelqu'un une responsabilité et qu'il est incapable de l'assumer, la seule chose à faire, c'est de démissionner. Ou alors, pour les cas de la MONUSCO, nous avons donné à la MONUSCO le rôle, la mission de protéger les civils, mais elle est incapable de protéger les gens. Les gens sont tués à côté des bureaux de la MONUSCO. Et pour nous, cette MONUSCO n'a plus raison d'être. Alors, il faut simplement et purement la lever à Beni pour que nous ne puissions pas continuer à mettre notre espoir dans une structure ou dans des individus qui n'ont aucune solution à nous apporter. Et donc déjà, si nous savons que la MONUSCO n'est plus là, nous allons commencer à demander de compte à l'armée. L'armée peut aussi se renforcer pour trouver, porter des actions avec beaucoup plus d'indépendance. Et pour nous, les citoyens, c'est qu'il y a quand même un rapport de redevabilité entre l'armée et les citoyens.
Mais l'armée congolaise est accusée de complicité aussi bien que les parlementaires et d'autres politiciens. Et la dernière personne à dire cela, c'était le président de l'Assemblée nationale.
Nous avons appris plusieurs fois qu'il y a des généraux qui sont impliqués dans les massacres à Beni ou même à Rutshuru ou à Massissi. Et ça, ça a été dit par des organisations qui ont publié des rapports où elles ont cité nommément des personnalités qui aurait été impliqué. Le général Mondo, c'est par exemple, avait été cité par les groupes d'études pour le Congo et beaucoup d'autres approches des Nations Unies. Et donc, il y a quand même des informations qui nous poussent à confirmer ces hypothèses. Mais il y a aussi les conditions de vie des non-militaires. Si vous arrivez à Beni, vous allez voir qu'il y a du calvaire. Les militaires, ils n'ont pas à manger sur le terrain. Ils n'ont pas leur salaire. Alors, comment est-ce que vous allez envoyer quelqu'un sur le terrain combattre un ennemi farouche comme l'ADF et vous ne lui donnez pas des moyens suffisants, d'abord sur sa propre survie, mais également des moyens pour combattre l'ennemi. Donc on comprend que ces autorités qui sont incapables de doter des moyens à ces militaires sont directement complices. Donc il y a une complicité même du président de la République par son silence.
Ghislain Mouima de la Lucha joint à Goma.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Nil, source de tension entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Les négociations entre les trois pays ont repris à Kinshasa pour tenter de résoudre la crise née de la construction par l'Éthiopie d'un grand barrage que l'Égypte et le Soudan considèrent comme une menace pour leur approvisionnement en eau. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi met en garde contre une instabilité inimaginable dans la région. Comment résoudre cette crise du Nil? La médiation du président Tshisekedi a-t-elle des chances de réussite? Qu'en est-il des autres pays que le Nil traverse? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Afrique de l'Ouest, le Bénin a su limiter la casse. En pleine pandémie, le pays obtient avec ses 2,3% la plus forte croissance des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Le Bénin tire son épingle du jeu grâce au secteur agricole, mais comme vous allez le voir, la croissance ne bénéficie pas à tout le monde. Reportage de Narikaline Lopi.
Séparer la fibre de son grain. Sous les mains de ses techniciens, le coton béninois prend forme. L'or blanc du pays est devenu le symbole de la croissance économique la plus forte des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine.
Quand les camions remplis de coton viennent, on s'occupe du déchargement.
Alexis Lagbé est saisonnier sur le site de Boïcon, à 124 km au nord de Cotonou. La croissance béninoise, il la voit défiler entre ses doigts.
Il n'y a pas eu de baisse, au contraire, on produit plus. Les responsables ont fait attention aux gestes barrières pour que l'on continue à travailler.
Dans cette usine, en moyenne, 220 tonnes de coton sont égrenées chaque jour. Une cadence qui permet au Bénin d'être le plus grand producteur et exportateur d'Afrique. L'année dernière, le pays a produit près de 715 000 tonnes, un record. Et Patrice Dovonou, en charge de cette usine, a son explication sur les bons résultats béninois.
Le coton est un élément important, sinon est un facteur important de la croissance du PIB. C'est le suivi en réalité. D'accord, le suivi, le contrôle, l'œil que le gouvernement a dans la gestion des acteurs qui ont aujourd'hui obligation de compte rendu. Donc ils sont tenus de faire le travail comme cela se doit. Et évidemment, le résultat s'ensuit.
Si les 2,3% de croissance s'appuient en partie sur le secteur du coton, au niveau microéconomique, le tableau est différent. Dans les allées de Dantokpa, le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest, les commerçants pâtissent de la crise sanitaire mondiale, avec des recettes divisées par deux pour certains.
Combien ? 3 500. Dernier prix ? 3 000.
Angèle est une mère de famille qui tient son stand ici depuis 25 ans.
On vient les mains vides et on rentre les mains vides. Nous n'avons personne pour nous soutenir. C'est du commerce que nous vivons pour nourrir nos familles et scolariser nos enfants.
Angèle Aguémon ne baisse pas les bras. La commerçante veut croire en des jours meilleurs grâce à la vaccination et à la maîtrise de la propagation du Covid-19. Ndari Kalinglopi pour VOA Afrique, Cotonou.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mali, avoir un emploi décent et subvenir aux besoins des siens relève, nous dit notre correspondant, du parcours du combattant. Les Maliens, qui sont handicapés moteurs, sont parfois mis sur la touche, au point que certains s'adonnent à la mendicité dans les rues de la capitale Bamako. Moussa Konaté est handicapé depuis le bas âge, mais il a décidé de ne pas céder au découragement. Il exerce un métier qui est vu au Mali comme celui des femmes, la coiffure. Allons à la découverte de l'homme qui tresse les cheveux des femmes avec notre correspondant à Bamako, Mokhtar Barry.
Être handicapé est parfois vu comme une excuse pour se soustraire à certaines obligations. Au Mali, si certaines personnes handicapées ont fait le choix d'attendre une quelconque charité, d'autres préfèrent se battre et gagner leur vie à la sueur de leur front. C'est le cas de Moussa Konaté, handicapé moteur. Depuis 1976, il tresse les cheveux des femmes dans le quartier de Momirambou, en périphérie de Bamako.
J'ai appris ce métier au Burkina. Là-bas, les hommes comme les femmes exercent ce métier. Je tressais ma petite sœur jusqu'à ce que je devienne un connaisseur et je suis venu au Mali. Quand on aime une chose, on ne doit pas avoir honte. Il arrive parfois qu'on dise un homme qui tresse les femmes et je réponds oui, je le fais. C'est mon métier. Dieu a fait de moi un handicapé, mais je ne me suis pas promené pour.
Parmi ses clientes, des adultes, des enfants du voisinage et même parfois des clientes venues de loin. En plus, Moussa fait profiter de son savoir à celles désireuses d'apprendre le métier.
Il a rendu de nombreux services à la famille en prenant en charge père, mère et enfants quand il en avait la capacité. Maintenant, les personnes qu'il avait initiées au métier font qu'il reçoit moins de clients. Avec son âge, il commence à être fatigué, sinon il nous a toujours tiré d'affaires à l'occasion de nos mariages.
Quotidienne, chose que Moussa Konaté a refusé.
Étant donné que je suis handicapé des pieds et non des mains, je puis apprendre parfaitement ce métier. Du moment où je reste assis sans mouvement, je ne me plains pas. C'est dur d'être handicapé. Cependant, si l'on parvient à apprendre un métier et on arrive à subvenir à nos besoins, cela est une bonne chose. C'est toujours mieux que d'avoir la main tendue dans la rue avec tous les risques que cela comporte.
Même si ces braves handicapés sont parvenus à nourrir et scolariser ses enfants à travers ses métiers, il n'est pas parvenu à réaliser les rêves d'habiter sous son propre toit ou d'avoir son propre salon de coiffure. Un rêve qu'il espère se voir concrétiser un jour. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.